Nos services francophones vers l'Afrique, tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Édition spéciale du monde aujourd'hui, au micro Idrissa Sidoudia. Dans un instant, une rétrospective 2014 avec nos correspondants en Afrique. Elle vous sera présentée par Nathalie Barge. Mais en attendant, notre premier bulletin d'information de la soirée. Au Nigeria, nouvel attentat terroriste dans le nord-est du pays. Un kamikaze s'est fait exploser jeudi pendant l'office du jour de l'an devant une église évangéliste de Gombe, blessant plusieurs personnes, selon l'AFP qui cite un responsable des secours et des témoins. L'homme arrivé à moto a déclenché l'explosion devant l'église après avoir été empêché de pénétrer dans le bâtiment. Au Mali, des roquettes ont été de nouveau tirées mercredi contre un camp utilisé par les forces maliennes et internationales à Tessalit, dans l'extrême nord-est du Mali, sans faire de victimes, a appris l'AFP jeudi auprès d'une source du service de communication de l'opération française Barkhane. Cette opération mise en place le 1er août dernier vise à traquer les groupes islamistes sur une zone couvrant 5 pays, Mauritanie, Mali, Niger, Tchad et Burkina Faso. Le camp de Tessalit avait déjà été visé lundi par des roquettes et obus dans une attaque revendiquée par le groupe djihadiste Ansar Dine du Touareg malien Iyad Aggeli. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a effectué une visite surprise jeudi dans l'extrême nord du Niger, tout près des premiers sanctuaires djihadistes libyens contre lesquels Paris tente de mobiliser la communauté internationale. Venu de N'Djamena, la capitale tchadienne, où il avait réveillonné mercredi avec des soldats français, M. Le Drian s'est posé à bord d'un avion de transport militaire sur une piste de la base française en cours d'installation à Madama, a constaté l'AFP. Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso s'est félicité dans son message du nouvel an du débat sain sur la Constitution après que son parti s'est prononcé pour un changement de ce document afin de lui permettre de briguer un nouveau mandat en 2016. Pour le président Sassou, personne n'a le droit d'empêcher une telle confrontation d'idées. C'est cela, la démocratie, a-t-il dit selon l'AFP. La majeure partie de l'opposition appelle M. Sassou Nguesso, qui cumule au total 30 ans de pouvoir, à respecter la Constitution dont il est, et je cite, « le géniteur et gardien ». En Égypte, un tribunal a ordonné la tenue d'un nouveau procès pour les trois journalistes emprisonnés d'Al Jazeera. La Cour de cassation a annoncé sa décision, mais n'a pas fixé de date. En attendant, l'Australien Peter Greste, le Canadien égyptien Mohamed Fahmy et l'Égyptien Baher Mohamed resteront en prison. Ils avaient été arrêtés en décembre 2013 dans un hôtel du Caire et reconnus coupables en juillet dernier de soutien à l'organisation interdite des frères musulmans. Pour un porte-parole d'Al Jazeera, plutôt que de perpétuer cette injustice et ternir l'image de leur propre pays, les autorités égyptiennes devraient libérer rapidement nos confrères.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Afghanistan, les autorités ont ouvert une enquête pour savoir si des soldats ont délibérément tiré une roquette sur une cérémonie de mariage tuant au moins 26 personnes hier soir. À Shanghai, en Chine, une bousculade à l'occasion de la célébration du Nouvel An a coûté la vie à au moins 35 personnes et fait des dizaines de blessés. Les autorités indonésiennes espèrent que l'amélioration du temps permettra d'accélérer les opérations de recherche de l'épave de l'avion d'Air Asia qui s'est abîmé dans la mer de Java. Le leader nord-coréen Kim Jong-un se dit ouvert à un élargissement du dialogue et de la coopération avec la Corée du Sud. Dans son discours traditionnel à l'occasion du Nouvel An, M. Kim s'est également dit prêt à reprendre les pourparlers de haut niveau avec Séoul. On ne sait pas au juste à quel niveau de tels pourparlers pourraient avoir lieu.
Bonne année 2015 à toutes et à tous. Nathalie Barge ici à Washington. En cette nouvelle année, une édition spéciale de VOA Afrique pour revenir sur quelques faits marquants de l'année écoulée en Afrique. Nos correspondants en Guinée, au Togo, au Congo-Brazzaville et au Bénin vous proposent un tour d'horizon de l'actualité 2014 dans leurs pays respectifs. À n'en pas douter, l'année 2014 aura été marquée par l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, à commencer par la Guinée. Rétrospective de notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
C'est une année dite d'Ebola qui s'achève en Guinée. En février, un virus inconnu fait son apparition dans le sud du pays. Deux mois après, les laboratoires de Lille en France confirment la présence de Ebola. Déjà, on parle de plusieurs morts à Guéquédou, ensuite à Macenta, et l'appellation change. Maintenant, c'est une épidémie, car de nouveaux foyers, de nouvelles chaînes de contamination sont identifiées jour après jour. La nouvelle fait le tour du pays. Certains vont jusqu'à abandonner la politesse de serrer les mains. D'autres deviennent accros des gels antibactéries.
Mon inquiétude par rapport à cette maladie Ebola, c'est depuis que le bilan a atteint une centaine de victimes. Et parmi ces centaines, on a compris que les personnes qui sont censées dessoigner les malades sont aussi victimes.
Moi personnellement, même s'il y a des personnes qui sont guéries de cette maladie, je me méfierais.
On a décidé de ne plus aller dans les cérémonies. On a même eu un décès à côté de chez nous ici. On n'ose pas aller parce qu'il paraît que le corps transmet.
La situation empire. On annonce plus de 100 morts. Il faut réagir. Le gouvernement guinéen lance une riposte. Le président Alpha Condé s'adresse aux Guinéens.
Guinéens, Guinéens, chers compatriotes, mon gouvernement et moi-même sommes très préoccupés par cette épidémie qui touche notamment les couches les plus actives du pays, parmi lesquelles les personnels de la santé. C'est pourquoi je tiens à rassurer les populations que grâce à l'appui de la communauté internationale, toutes les dispositions sont prises pour lutter efficacement contre cette épidémie.
Sur le terrain, les partenaires comme Médecins Sans Frontières s'occupent des centres de traitement et d'autres comme la Croix-Rouge sensibilisent et organisent le ramassage des corps et l'enterrement sécurisé. Mais après quelques semaines, le nombre de victimes augmente. Les chiffres sont au-delà de 200 morts et plus de 500 cas. Conakry renforce la riposte et le président Condé met en place la coordination nationale de riposte contre Ebola. La Guinée devient célèbre, mais tristement, ses fils et filles tombent tués par Ebola. Des aides arrivent. Argent, véhicules, kits sanitaires et formations sont enregistrés, mais le pays est stigmatisé, un peu isolé. La Côte d'Ivoire, le Sénégal ferment leurs frontières. De nombreuses compagnies aériennes évitent la destination Guinée à cause d'Ebola. Une situation qui donne un sérieux coup à l'économie du pays. Les activités ralentissent.
Qu'ils prennent leurs précautions, les gens qui voyagent, pour voir s'ils ne sont pas malades, ceux qui sont malades, les laisser sortir, aller prendre leurs marchandises et venir vendre. Ça va nous faire plaisir, comme, franchement. Et cela, stand-by.
Face à la persistance de l'épidémie, Sierra Touréa annonce une crise sanitaire alors que le commerce a enregistré une baisse de chiffre d'affaires. La situation devient préoccupante. Le président guinéen invite à Conakry ses homologues de la Sierra Leone et du Libéria, deux pays également touchés par Ebola, pour un sommet extraordinaire sur la maladie. Le président Condé multiplie les efforts. Il faut isoler Ebola et non la Guinée, déclare-t-il aux Nations Unies en septembre. La Guinée connaît une tendance entre l'accalmie au mois de juillet et la recrudescence en fin août et début septembre, où la seule localité de Koya, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale, avait enregistré 18 nouveaux cas. À l'intérieur du pays, certains Guinéens commencent à douter. À Macenta, on accuse Médecins Sans Frontières d'importer le virus. Ces véhicules sont endommagés dans l'attaque du centre de traitement des malades d'Ebola par des jeunes. Quelques mois après, on constate encore des réticences dans le sud du pays. Marc Poncin de Médecins Sans Frontières.
Il y a toujours des réticences observées dans les villages de Tonota et de Yekini à Yomou et à Bofosu et Koyama dans Masanta.
La réticence s'exprime à mains endroits du pays. Elle devient même violente. En Zérékouré, dans le sud du pays, 8 personnes sont tuées par des villageois alors qu'elles participaient à une campagne de sensibilisation. En décembre, les populations de Yimbaya, dans la banlieue de Conakry, refusent la construction d'un nouveau centre de traitement d'Ebola.
C'est un terrain qui est combattu par les jeunes. Tout le monde vient ici. Mais c'est pas, ils ont leur raison. Pourquoi ? Parce que la communication n'a pas été bien faite au niveau du quartier, au niveau de la commune.
Notre enfant, il joue ici.
De son côté, le président Kandé appelle de tout son vœu à une assistance et dénonce l'isolement de son pays. Un appel qui sera entendu. Le président John Dramani Mahama du Ghana, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali et le français François Hollande visitent la Guinée. Alpha Condé se réjouit de la solidarité de ses homologues et défend un pays fréquentable. La CEDEAO, de son côté, appelle à la rouverture des frontières et le Sénégal réagit positivement. Le ciel guinéen est de nouveau traversé par des vols, mais les mesures sont renforcées à l'aéroport international Conakry-Bessia et la vigilance démise. Le bilan est lourd. Plus de 2000 cas confirmés et plus de 2200 décès selon Médecins Sans Frontières. L'évolution de l'épidémie inquiète la communauté internationale et l'oblige à se mobiliser. Après le sous-secrétaire général des Nations Unies chargé de la lutte contre Ebola, le secrétaire général de l'institution a visité à son tour la Guinée. Ban Ki-moon est arrivé à Conakry 11 mois après l'apparition du virus Ebola. 11 mois d'épidémie avec des conséquences sur la vie des Guinéens. Sur le plan politique, pas d'élection communale initialement prévue cette année. Ebola et politique, sujet commenté dans la capitale.
Dans les conditions normales, tout peut se faire. Aujourd'hui, les gens continuent à aller au marché. Il y a plus de monde au marché aujourd'hui qu'il y aura de file le jour des élections.
Il serait très compliqué de tenir des élections. Dans la mesure où Ebola, à ce jour, est la préoccupation principale des autorités.
La priorité, selon moi, du gouvernement, c'est la rentrée scolaire. On sait que Ebola, ça fait depuis le début de l'année déjà, Ebola est en Guinée. Donc tout le monde se bat pour que vraiment que cette maladie parte définitivement. En ce qui concerne les élections, on a peu de chances qu'elles se tiennent en 2015.
Au-delà des morts, l'économie du pays est touchée. Le déficit budgétaire est de 120 millions de dollars selon la Banque mondiale. L'impact de Ebola est ressenti partout. Le pays a été privé du pèlerinage à la Mecque. Les écoles restent encore fermées. L'équipe nationale s'est qualifiée à la Coupe d'Afrique des Nations en jouant toutes ses rencontres à l'étranger. Et surtout, reste la délicate prise en charge, mais une prise en charge psychosocio-économique des victimes et familles des victimes d'Ebola. Malheureusement, les Guinéens terminent 2014 avec Ebola. Inutile de leur demander les vœux de nouvel an. Ebola dégage, disparaît, repart. Des sentiments unanimement partagés en Guinée, à l'image de cette chanson interprétée par un collectif d'artistes guinéens. Ebola, fait majeur en Guinée en 2014, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
Lutte contre le virus Ebola. VOA Afrique se mobilise. Rejoignez-nous sur WhatsApp. C'est simple, ouvrez l'application smartphone WhatsApp et envoyez Ebola au numéro suivant 1 202 257 35 83. Je répète, 1 202 257 35 83. Vous recevrez des infos et des conseils de prévention contre le virus. Restez informés. VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, l'année 2014 a été marquée par un grand débat sur le changement ou non de la Constitution. Les partisans du président Denis Sassou Nguesso, dont le dernier mandat arrive à terme en août 2016, pensent qu'il faut changer la Constitution pour permettre à celui-ci de rester au pouvoir. Les partisans de l'opposition s'opposent catégoriquement à cette idée et tout au cours de l'année dernière, ce débat a animé la vie politique du pays. Rétrospective de notre correspondant à Brazzaville, Nguela Ngoussou.
L'année 2014 au Congo-Brazzaville, l'opposition a pendant 12 mois soupçonné le président Denis Sassou Nguesso de pouvoir changer la constitution en vue d'obtenir un troisième mandat, ce que requise Pierre Ngolo, le secrétaire général du Parti Congolais du Travail, le parti au pouvoir.
Est-ce qu'on peut dire que le président, dans un message quelconque, appelait les citoyens du Congo au changement de la constitution? Qui peut le dire? Mais quand on parle, lui l'écoute. Mais le paradoxe,
le débat sur la constitution aura marqué de bout en bout l'année 2014 au Congo-Brazzaville. L'opposition a pendant 12 mois soupçonné le président Denis Sassou Nguesso de pouvoir changer la constitution en vue d'obtenir un troisième mandat, ce que requise Pierre Ngolo, le secrétaire général du Parti Congolais du Travail, le parti au pouvoir.
Est-ce qu'on peut dire que le président, dans un message quelconque, appelait les citoyens du Congo au changement de la constitution? Qui peut le dire? Mais quand on parle, lui l'écoute. Mais le paradoxe, c'est que ceux qui se croient le droit aujourd'hui de défendre le statu quo sans se référer à l'avis du président, ont l'impression que les autres qui disent « non, il faut soit réviser, soit changer », ils sont manipulés par le président. Ils poussent même leur toupet à demander au président d'arrêter.
Mais qu'est-ce qu'on reproche-t-on au bilan de Denis Sassou Nguesso? Paul-Marie Pouélé, coordonnateur du mouvement Sauvons le Congo, répond.
Oh, mais globalement, on dirait que c'est un véritable chaos quand on regarde tous les budgets respectifs depuis 2003 où nous avons connu des excédents pétroliers et tout ça. Je crois que le bilan est foncièrement chaotique. Il n'y a qu'à regarder tous les indicateurs sociaux, le chômage des jeunes, le système de santé, le système d'éducation. Tous les clignotants sont au rouge, comme on dit.
Sassou accède au pouvoir pour la première fois ici en 1979. C'est Jimmy Carter qui est président aux États-Unis. Après Jimmy Carter qui a fait un mandat, Ronald Reagan a fait deux mandats. Il est parti, Sassou est toujours président. Bush est prêt à venir, a fait un mandat, Sassou est toujours. Bill Clinton est venu, a fait deux mandats, Sassou est toujours. Bush fils est venu, il a fait deux mandats, Sassou est toujours. Barack Obama est en train d'effectuer le deuxième mandat, Sassou est toujours. Et il pense que ce n'est pas suffisant pour lui. Et en 2016, il aura près de 32 ans au pouvoir.
Au niveau de la société civile, les avis sont partagés. Trésor Ndila, directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, estime qu'il ne sera pas facile de faire de l'alternance démocratique avec Sassou Nguesso, Nguela Ngoussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Au Burkina Faso, la question de la modification de la constitution a provoqué un soulèvement populaire et le départ du président Blaise Compaoré. Au Togo, la Constitution ne prévoit aucune limite de mandat présidentiel. D'où l'inquiétude de l'opposition qui a réclamé tout au cours de l'année dernière une limitation du nombre de mandats. Rétrospective de notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
2014 étant une année préélectorale, l'actualité togolaise a été dominée durant les 12 derniers mois par la politique, surtout la question des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Après le mois de janvier qui a ravivé les souvenirs des incendies des marchés de Lomé et de Kara de janvier 2013, dès le mois de février, l'opposition a commencé par réclamer l'ouverture d'un dialogue dans la perspective des réformes. À cet effet, Jean-Pierre Fabre, président de l'Alliance nationale pour le changement ANC, en sa qualité de chef de file de l'opposition, a adressé une correspondance au président de la République, Faure Gnassingbé. Nous écoutons Jean-Pierre Fabre.
Il s'est agi de rappeler au chef de l'État l'engagement qui a été pris par le gouvernement, engagement selon lequel, après la législative, le gouvernement prendra toutes les dispositions pour organiser très rapidement des discussions pour examiner les questions relatives aux réformes institutionnelles et constitutionnelles. Cela qui a été dit dans la lettre, et il a été demandé au chef de l'État de prendre toutes les mesures pour que cette discussion ait lieu dans les meilleurs délais.
À la suite de cette correspondance, Jean-Pierre Fabre sera reçu le 5 mars par Fonia Singbe. Dans la discussion, le chef de l'État togolais a indiqué que la question des réformes doit être débattue au Parlement. Christian Trimoin, secrétaire d'État auprès de la présidence chargé des relations avec les institutions.
Le chef de l'État a réitéré la nécessité que l'Assemblée nationale élue aux élections du 25 juillet 2013 puisse jouer son rôle et qu'il était nécessaire dans ce cas de rechercher le consensus à travers les procédures parlementaires habituelles, que les réformes portant nécessairement sur des modifications textuelles, législatives et réglementaires, le débat devait nécessairement in fine s'achever à l'Assemblée nationale et que par définition l'Assemblée devrait jouer son rôle sur cette question.
Malgré cette position de Fonia Singbe, des consultations politiques ont été faites par le Premier ministre entre mars et mai 2014. Des consultations qui déboucheront sur un dialogue qui commencera le 19 mai. À la veille de l'ouverture des pourparlers, des Togolais ont fait leurs propositions de sujets à discuter.
Le nœud, c'est la limitation du mandat présidentiel surtout. Et revoir les institutions qui ont en eux la charge des élections, surtout la CENI, la Cour constitutionnelle.
En premier, c'est l'article qui limite le mandat présidentiel. Il faut statuer sur cet article. Et puis après, sur le découpage électoral. Il faut revoir aussi la composition de la CENI, il faut revoir la HAC, la Cour constitutionnelle, les institutions qui seront fiables pour dire le résultat des urnes.
Après l'adoption de l'agenda et l'élection du bureau du dialogue, entre le 20 et le 26 mai, les débats se sont concentrés sur la nécessité d'un médiateur pour assurer la modération. Dans la foulée, l'opposition parlementaire a introduit une proposition de loi portant réforme qui est en étude à la commission des lois de l'Assemblée nationale. Dans l'entendement populaire, seuls les militants et sympathisants de l'opposition sont pour les réformes. Les résultats d'une enquête menée par Afrobaromètre viennent de prouver le contraire. Hervé Akinocho, le chargé de recherche au Centre de recherche et de sondage d'Opinocrop, partenaire national d'Afrobaromètre au Togo.
85% des Togolais, quelle qu'en soit leur opinion politique, sont pour la limitation de mandat. Maintenant, l'autre grand résultat concerne, est-ce que le président Faure doit pouvoir se représenter pour un troisième mandat? Et concernant cela, il y a 49% des gens qui ont dit qu'il ne doit pas se représenter, 11% ont dit qu'il peut se représenter et 40% disent qu'ils ne sont pas suffisamment informés pour se prononcer sur la question. Donc, quand on regarde les 49% qui disent qu'il ne doit pas se représenter, et on se rend compte que 69%, c'est-à-dire à peu près 7 partisans de l'opposition sur 10, disent qu'il ne doit pas se présenter, et 35%, c'est-à-dire la moitié au niveau des sympathisants du parti au pouvoir seulement, qui disent qu'il ne doit pas se présenter pour un troisième mandat.
2014 ne met pas fin aux manifestations de l'opposition dans la perspective d'obtenir les réformes. Des marches sont annoncées pour les 5 et 6 janvier prochains, non seulement à Lomé, mais aussi dans les chefs-lieux de préfecture. Kyle Lawson, Lomé, pour La Voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Comme les précédentes années, il y a eu de nombreuses grèves en Afrique en 2014, et notamment au Bénin. Rétrospective de notre correspondant à Cotonou, Peggy Ludovic Dagba.
L'année 2014 aura connu de grands soubresauts sur le plan sociopolitique au Bénin. L'administration publique fut paralysée par une grève généralisée décrétée par 6 des 7 centrales syndicales que compte le pays pour exiger le respect des libertés publiques chèrement conquises en riposte à la marche du 27 décembre 2013 réprimée dans le sang. 3 mois et demi après, 4 des 6 centrales ont décidé d'arrêter le mouvement, mais après avoir obtenu quelques satisfactions. Pascal Todjinon de la Confédération générale des travailleurs du Bénin.
Nous avons la possibilité de marcher maintenant. Nous avons
réussi à annuler les concours où les gens sont dans leur lit à la maison, on les déclare admis. Donc cette liberté nous a permis aujourd'hui qu'on puisse marcher allègrement. Nous avons aussi réussi pour prélèvement sur salaire pour faire des grèves licites. Nous avons réussi à ce qu'on rembourse tout cela. Même la grève de 2012, les prélèvements qui ont été faits en ce moment-là ont été remboursés. Je crois que c'est des résultats positifs qu'il faut porter à la connaissance des uns et des autres.
Pour des questions de sécurité liées à leur fonction et d'autres revendications ayant trait à leur nomination et affectation à de nouveaux postes, sans oublier leurs conditions de travail, les magistrats béninois ont eux aussi mené la vie dure au gouvernement à travers une grève illimitée qui aura paralysé la maison justice pendant plusieurs mois avant d'adresser un moratoire au gouvernement. Un gouvernement qui, de son côté, dit faire tout ce qui est en son pouvoir pour régler leurs problèmes. Valentin Tienote Agosso, ministre béninois de la justice, nous dit ici ce qui est fait pour garantir la sécurité aux juges.
La question de la sécurité, c'est effectivement une question fondamentale parce que les magistrats exercent un métier à haut risque, parce que lorsqu'il y a un litige qui naît ou lorsque quelqu'un est en justice, il y aura un perdant, il y aura un gagnant. Mais la partie qui perd estime que bon, il y a quelque chose et parfois les magistrats sont menacés. Les magistrats aussi sont menacés parfois de leur propre fait, de leur propre comportement. Mais ce qui est sûr, l'État a l'obligation d'assurer leur sécurité. Donc nous avons pris un certain nombre de mesures, à savoir, comme ils ont demandé eux-mêmes, à poser des gâches sur leur poste, à mettre un système, un dispositif électronique pour pouvoir surveiller avec des vidéosurveillances, à mettre des gendarmes. Mais il faut avouer que le nombre n'est pas suffisant. Donc le problème de sécurité, ça continue. Nous avons progressivement réglé les problèmes.
Mais là ne s'arrête pas leur calvaire. Les députés de la majorité présidentielle, décidés à mettre fin à leur implacable pression, introduisirent un projet de loi à l'Assemblée nationale, visant à leur retirer le droit de grève, ce qui amènera les hommes en toge à descendre par trois fois dans les rues de la capitale béninoise, Porto Novo, pour marcher sur l'Assemblée nationale. Michel Adiaka, président de l'UNAMAB.
Nous sommes venus ici le 10 juillet 2014. On les a dit que parce que le président Nago est au Canada, nous n'allons pas pouvoir délivrer notre message. Nous sommes revenus le 17 juillet 2014. On nous a dit parce que le président de l'Assemblée nationale est en mission chez lui, nous n'allons pas délivrer notre message.
Deux mémorables marches, les 29 octobre et 11 décembre 2014, auront permis à toutes les forces politiques de l'opposition et la société civile d'exiger la tenue de ces consultations. Voici quelques déclarations à l'issue de l'une de ces marches.
Ceux qui veulent opposer les communautés et font venir des troupes, des gens pour l'affrontement, nous vous demandons de leur dire à tous ceux qui, dans notre pays, ne veulent pas du dialogue et veulent imposer leur monologue et leur seule pensée, nous vous demandons de leur dire
à Yaïboni, on a montré son incapacité notoire de diriger notre pays.
La mouvance présidentielle a tenté elle aussi de donner de la voix, mais pour voler au secours de son chef. Au chapitre santé, épargné par le virus Ebola, le Bénin a été touché par le virus Lassa, par le nord du pays, notamment à Tongueta. La ministre béninoise de la Santé a dit prendre toutes les mesures pour préserver les populations. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, pour la Voix de l'Amérique.
Un grand merci à nos correspondants pour leurs dossiers spéciaux sur l'année 2014 en Afrique. Nathalie Barge ici à Washington. Toute la rédaction de VOA Afrique se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2015.